Si vous voulez bien prendre maintenant la parole, eh bien, la parole est à vous. Oui, il y a le micro au premier rang, s'il vous plaît. Non, c'est Catherine. Elle veut s'exprimer. Non. Oui.
Je voulais juste donner la référence du texte dont tu as parlé. C'est publié dans les cahiers du nouveau-né, le premier numéro qui s'appelait Naître et ensuite, publié chez Stock, qui est peut-être épuisé, mais qui sera repris dans les œuvres complètes.
C'est un texte formidable.
Qui souhaite intervenir? Pendant que les micros circulent, j'aurais posé une question à Myriam. Je voudrais savoir comment se fait au juste, tu as fait allusion, mais je ne suis pas sûr d'avoir parfaitement compris, comment se fait l'intervention de la psychanalyste, qui te sollicite? Au fond, est-ce que tu as parlé à un moment dans l'histoire de Nelson, la puéricultrice qui t'avait indiqué qu'il fallait aller voir la maman? Mais comment se fait cette convocation, comme tu dis, cette invitation? Est-ce que vous faites votre apparition dans le postpartum ou est-ce que vous avez déjà été vu, connu avant, durant la formation à l'accouchement? Et est-ce qu'il y a aussi un après? Donc j'aurais voulu que tu complètes cet exposé qui était très périnatal par quelques narrations de ce qui se passe avant et ce qui se passe après.
Bon, je veux bien alors. J'étais ma vie, mon heure. J'ai été obligée de ramasser et effectivement, j'ai peut-être été un peu elliptique sur ma pratique. Bon, il se trouve que, comme je vous ai dit, je travaille dans cette maternité depuis 1990, donc je ne suis pas inconnue là-bas. Et simplement, je ne me retranche pas dans un bureau. Donc je passe dans les couloirs. Et je vends du vent, c'est-à-dire je dis bonjour, ça va, je dis ça aux professionnels. Et là, ils savent que je vais arriver le matin. Et ils me disent, ah oui, alors il y a Madame Machin, là, son bébé, il veut pas téter, ou elle n'arrête pas de pleurer. Alors bon, on a fait ci, on a fait ça, et puis je vais parler de toi, et puis elle est d'accord pour te rencontrer. C'est-à-dire que je leur fais totalement confiance. À ce qu'ils perçoivent. Et ils sont professionnels. Ils m'appellent rarement pour rien. C'est-à-dire qu'ils sont tout à fait capables de repérer quand il y a une souffrance qui me concerne et à laquelle je pourrais apporter quelque chose. Ce qu'il y a aussi, c'est qu'ils n'ont pas besoin d'en référer à un supérieur hiérarchique. À l'hôpital, c'est très hiérarchisé. Or, ils savent que quelle que soit leur profession, qu'ils soient sages-femmes, médecins, auxiliaires de puériculture, infirmières, ils peuvent directement me solliciter quand je passe dans les couloirs. Et ça, c'est important parce que c'est facile. Alors, ça donne cette. Bon, je suis aussi appelée en salle de naissance quand ils ont besoin de moi.
Elle-même.
Alors, si vous voulez, parfois je suis appelée par les femmes elles-mêmes. La plupart du temps, c'est qu'elles savent que j'existe. Alors, quand
Bon,
elles savent
comment
que
ça se fait?
j'existe, ah ben, il y a la télé, il y a Internet, il y a les publications, il y a la cause des bébés, mais il y a aussi le fait que je passe à une réunion d'information qui est organisée pour toutes les personnes qui vont accoucher à la maternité. J'y passe 5 minutes. Mais je dis qu'on existe, qu'on peut les aider pendant la grossesse, qu'on peut les aider après, qu'elles peuvent demander qu'on passe les voir. Donc parfois, spontanément, elles viennent soit pendant la grossesse, soit quand elles ont accouché, elles demandent à ce que je passe. Voilà.
Cette visite n'est pas vécue comme une intrusion, une
Ben non, parce qu'elles peuvent
infraction.
refuser. Elle leur est proposée, et si elles refusent, on a tous
On peut
travaillé
pas
dans l'équipe
prescrire
sur le
en
fait, c'est pas
ordonnance,
prescrit, non.
prescription de psychanalyste.
Non, non, non. Elles peuvent refuser et c'est toujours respecté parce que j'ai travaillé avec le personnel de la maternité pour qu'ils sachent que si elles refusent, c'est qu'elles ont d'excellentes raisons de refuser et que c'est pas le moment. Et qu'on peut travailler ensemble pour les aider, elles, à supporter ce qui se passe et indirectement pouvoir les aider. Mais une consultation avec le psychanalyste, ça peut jamais être fait en dehors de la demande.
Ça ne se prescrit pas, surtout.
Voilà.
Je
Je peux juste ajouter un petit mot, justement, de mon expérience, c'est que dans cette période précisément proche de la naissance, on n'a pas beaucoup de mal à faire à ce que les mamans viennent voir le psychanalyste. C'est plutôt le contraire. Hein. On ne sait plus comment faire pour répondre à la demande, sauf dans de très rares cas très particuliers et qui sont en général des pathologies graves, enfin de femmes psychotiques qui ne reconnaissent pas leurs difficultés. Mais sinon, en général, il suffit de dire qu'il y a quelqu'un qui est là pour les écouter pour qu'elles en redemandent d'une certaine façon.
Tu dis, mais il y a aussi la particularité de l'état du blues. Les femmes qui traversent le blues sont dans un état vraiment très particulier. Et comme tu parles de femmes psychotiques, un jour, il y en a une qui a pris rendez-vous avec moi, parce que j'ai une consultation ouverte à tout le monde, et elle prend rendez-vous avec moi à distance, 2 mois après la naissance. Et elle vient, elle était très fermée, elle n'arrivait pas à parler, elle me dit « Ah là là, vous auriez dû venir quand c'est arrivé. À ce moment-là, j'aurais pu vous dire, mais maintenant, je ne peux plus. » Et elle parlait vraiment de ce qui se passe, de tout le réaménagement inconscient dans le psychisme au moment de la traversée du blues, qui fait que les femmes sont dans une disposition à parler incroyable. C'est comme si toutes les paroles étaient à fleur de peau et demandaient qu'à s'exprimer. En une séance, au troisième jour, on en obtient beaucoup plus que parfois en des années sur le divan, dans le cabinet.
Merci à toutes les deux. À vous la parole. Peut-être des mains se lèvent, mais je ne les vois pas. Ah voilà, il y a peut-être une personne qui se lève.
Oui. Madame, oui. Bonjour, je m'appelle Marie Annet, pédopsychiatre belge. Je voudrais remercier Myriam Zecher pour ce qu'elle a dit, partagé quant au bébé qui saisit tout ce qu'on lui dit. Et je voulais nommer, vous avez une grande psychologue aussi en France qui s'appelle Bernadette Lemoine, qui se relève de l'anthropologie chrétienne et qui parle de cette conscience d'amour du tout petit. Par rapport à la conscience de raison qui se développe plus tard, cette conscience d'amour qui est là dès le départ de la vie, dès la conception, et qui se réfère évidemment du verbe, du « je suis », duquel nous sommes tous constitués, de cette parole d'éternité en éternité. Voilà, je pense que ça, c'est important aussi, cette référence. Voilà, merci.
Une autre intervention ? Oui, monsieur. Allez-y.
Je ne fais pas partie du tout du champ de la psychanalyse, donc vous voudrez bien, peut-être que si ma question n'est pas pertinente, bien vous n'y répondrez pas, et ce sera déjà une forme de réponse pour moi. Hier, j'ai entendu, je crois que c'était hier, parler de confusion, de perversion dans le qui aurait dans la confusion entre désir et besoin. Mais ce matin, quelqu'un d'autre a parlé de désir et besoin confondus chez le fœtus. Et j'aimerais savoir si, ou s'il vous plaît, que quelqu'un puisse développer l'articulation qu'il y a entre ces deux propositions qui me semblent l'une et l'autre valables, pour autant que mon intuition les entende. Voilà.
Oui, sans faire un cours, évidemment. Dans la question du besoin et du désir, c'est tout à fait fondamental au sens où, du côté du besoin, on va trouver les pulsions, on va trouver ce qui fait vivre le corps, tout simplement. Et du côté du désir, on va trouver une aspiration qui est sans objet, au fond, qui est le désir de vivre, d'une certaine façon, comme Dolto peut le dire parfois, ou un désir qui peut même aller, pour Dolto, là, on a entendu une référence quasi religieuse à l'instant, en tous les cas spiritualiste, pour Dolto, le désir peut même excéder le temps de la vie du corps, va au-delà de la mort. Alors sans entrer dans tous les débats que ça pose, parce que c'est pas rien, ce qui est important dans cette affaire, c'est que, à mon sens, ce qui spécifie vraiment, ce qui inscrit véritablement l'œuvre de Dolto, c'est cette attention fondamentale portée sur le désir. C'est ce déplacement qu'elle pose très précocement, et donc en effet, dès la vie fœtale, de ce qui est le corps biologique, le corps des pulsions, à ce qui est le sujet, désir et sujet étant deux dimensions indissociables. Donc véritablement, votre question n'est pas si naïve que ça, au sens où il ne s'agit pas effectivement d'une question de cours. Il y a d'un côté le désir, de l'autre côté le besoin et les pulsions. C'est véritablement le point d'articulation entre Dolto et d'autres psychanalystes y compris. C'est ce point-là. Alors après, ça demande beaucoup de développement, mais en tous les cas, c'est tout à fait fondamental. Alors, juste une remarque, pardon. C'est vrai qu'il en a été question hier à travers un article, mais je ne peux que vous inviter à revenir à l'ouvrage de texte de Françoise Dolto qui s'appelle « Au jeu du désir », précisément, dont alors le titre vient d'un des articles, c'est un recueil d'articles, et l'article qui donne son titre à l'ensemble de l'ouvrage, c'est donc « Au jeu du désir, les dés sont pipés ».
Je peux simplement peut-être rajouter une chose. Françoise Dolto dit que le désir, c'est le désir d'être dans la communication. Et en ce sens-là, comme l'a dit Yannick, elle est très proche, en particulier de Lacan, le désir de l'homme, c'est le désir de l'autre.
Pas de... Voilà. Alors, je vais profiter pour dire juste deux mots. Justement, ces jeux de désir dialectique entre le jeu du désir et le besoin, ça fait partie du personnage de l'étranger. Mais il n'y a pas ces jeux sur cette dialectique dans le cas du sauvage, du extraterrestre, qui sont pris justement dans les registres de la nécessité, du besoin. C'est ça la question. Alors, c'est formidable votre question, parce qu'il permet justement de revenir pourquoi j'avais formulé la différence entre les trois personnages. Le bébé peut très bien basculer d'un côté ou de l'autre.
Vous voyez que votre question n'était pas du tout celle d'un naïf, mais était formidable. Alors, surtout, ne vous auto-censurez pas pour les questions.
Daniel Hoé, médecin pédopsychiatre.
Où êtes-vous ?
Là-haut.
Là-haut, oui, d'accord.
Je voulais avoir votre avis sur ce qu'on appelle les troubles de l'attachement, définis par Bowlby, qui correspondent à ces séparations brutales du nourrisson avec sa mère, en particulier lors d'hospitalisation en néonatologie, et sur les démarches symboliques qui sont proposées à la mère, à l'enfant et au père, quand il a 5, 6, 7 ans, de rejouer la grossesse sous un gros pull ou une grande robe, de rejouer l'accouchement, de rejouer la période de petit bébé dans le jeu et dans le plaisir, de façon à pouvoir permettre aux parents de pouvoir mettre des mots là où il y avait eu des souffrances, là où il n'y avait pas pu avoir des mots qui pouvaient se dire.
Oui. Les théories de l'attachement de Bowlby décrivent en effet des phénomènes que l'on peut tout à fait observer, hein, de relation d'un enfant ou d'un jeune enfant à sa mère ou à ses parents. Ceci dit, nous, dans notre travail, nous n'utilisons pas beaucoup ces références, hein, à Bowlby, parce que c'est une description, comment dire, quasi éthologique de la relation de la mère à l'enfant ou de l'enfant à la mère, et qui caractérise un peu ou nomme un certain type de relation. Or, ce qui nous, comme j'ai essayé de le faire passer, hein, ce qui nous intéresse plus, c'est le fait d'être dans cet être avec, hein, dans la relation de la mère à l'enfant, et de faire que, en effet, l'angoisse d'un enfant terrible parce que sa mère tout simplement va aux toilettes, hein, peut-être travailler dans le moment, essayer d'expliquer à l'enfant, d'expliquer à la mère qu'elle n'a pas dit qu'elle sortait de la pièce, etc., plutôt que d'être caractérisé comme un attachement de telle ou telle sorte, ou une relation sécure ou insécure. Voilà. Quant à ce que vous avez dit de faire rejouer à l'enfant sa propre naissance, je crois, ou la grossesse de la mère, ou des choses comme ça, je ne sais pas, il ne s'agit pas de faire des choses à des enfants qui vous consultent éventuellement en thérapie, hein, mais d'être comme ça disponible à ce que l'enfant ou ce que l'enfant et ses parents eux-mêmes vont amener. Ce que vous, enfin, vous évoquez là, je ne sais pas à quoi vous faites référence exactement, mais ça ressemble à des techniques de psychodrame, en effet, ou de jeu, où, en effet, tout ceci peut être fait, mais dans un cadre extrêmement précis, hein, qui est celui du psychodrame.
Je voulais répondre, Yannick. Je voulais juste pardon. Juste ajouter un petit mot concernant la question générale qui j'ai envie de dire qui est difficile à contourner, effectivement celle des théories de l'attachement quand il est question des relations précoces, quand il est question justement, là je suis déjà à l'intermédiaire des deux entre attachement et relations précoces. Je crois qu'il serait dommage d'établir comme ça une distinction, enfin à mon sens, quelque chose de radical entre les théories de l'attachement, ceux que ça permet de soutenir dans leur pratique, et puis les théories proprement psychanalytiques. D'autant que hier, nous avions ici en tribune Bernard Golz, qui fait partie de ceux qui travaillent, qui font des tentatives comme ça de lien entre la psychanalyse et les théories de l'attachement. Alors, à mon sens, là c'est une position personnelle, pour moi les théories de l'attachement seraient du côté du préconscient, de l'observable, comme l'a dit Claude, mais aussi du préconscient en termes plus psychanalytiques. Ce qui est là où il y a quelque chose qui me paraît être radicalement se séparer, ou se distinguer plutôt que se séparer, se distinguer de la psychanalyse, c'est la référence au symbolique, à l'ordre symbolique, à des jeux symboliques, aux effets symboliques de la castration symboligène chez Dolto, par exemple. Et le même type de débat entre théorie de l'attachement et psychanalyse, entre guillemets, pure et dure, ou plutôt, à mon sens, entre préconscient et question de l'inconscient, peut se porter autour de Winnicott. On peut avoir aussi le même type de débat sur un Winnicott qui serait du côté du préconscient et avec tout un champ de questionnement quant à la place du symbolique chez Winnicott. Donc, à mon sens, pour résumer mon propos, plutôt que d'opposer les uns aux autres de façon un peu schématique, je pense qu'il y a une question à poser, c'est celle de l'impact du symbolique dans ce qui est se manifeste comme relation parent-enfant précoce.
Oui, allez-y.
Bonjour. Je voudrais revenir à la conférence, à la dernière conférence de ce matin, de tout à l'heure, celle de Myriam Ziegler. Je voudrais vous dire d'abord, je suis Anne-Astrin Schuttenberger de Paris, groupe analyste et psychodramatiste. Je voudrais vous dire d'abord à quel point j'ai adoré votre conférence. Bravo et merci, merci, merci. Je voulais vous dire aussi, dans la salle Marie-Claire Busnier, vous avez fait allusion, et que si elle est encore présente ce matin, ce serait peut-être intéressant qu'elle vous pose elle-même directe question. Et je voulais vous demander, puisque vous avez cité Jean-Paul Tassin, lui parler de votre remarquable conférence. Voilà, c'est tout. Merci. Ah oui, je voulais dire aussi que puisqu'on a parlé de psychodrame, l'une des choses que l'on fait souvent, un psychodrame de nourrisson et même de nourrisson quasiment à la naissance, c'est de faire ce qu'on appelle le double du bébé, c'est-à-dire de se mettre à côté du bébé et de parler pour le bébé sur ce qu'on imagine ou ressent que ce bébé peut avoir ressenti par rapport à sa mère, et en particulier au moment de l'allaitement et des soins corporels. Et ça donne des résultats absolument extraordinaires, et on peut le commencer dès le deuxième jour de la naissance. Ça a été fait, ça a été décrit, et il y a en France énormément de psychodramatistes qui doivent connaître toutes ces techniques qu'on pourrait utiliser. Merci encore pour votre conférence.
Bernard de Gouège, j'ai donc avant de poser une question à la tribune, peut-être particulièrement à Myriam Ziegler, j'aurais voulu faire simplement une petite réflexion. Il me semble que le fil tout de même de ce colloque, entre autres, c'est tout de même la question de la transmission de la psychanalyse et la question justement de resituer Françoise Dolto pour éviter justement que la notoriété, comme disait M. Kazarov, fasse obstacle, de resituer Françoise Dolto dans le mouvement psychanalytique depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui. Et je remercie vraiment Yannick François ou Monsieur Seda particulièrement, de pouvoir resituer Françoise Zolto avec les autres noms de la psychanalyse, Freud, Lacan, Ferenczi, Winnicott, et bien sûr tous les autres que j'oublie, mais enfin ça me semble très important de ne pas situer Françoise Zolto dans un enseignement absolument unique. Je voulais dire aussi que la transmission, il est dit ici tout de même que la transmission est tout de même de la psychanalyse est très en danger. Ça a été dit hier dans plusieurs conférences, avec entre autres les baisses importantes de références analytiques dans les lieux d'accueil et tous les glissements qui s'en suivent. Ma question donc, par rapport à ce qui est dit ce matin, a aussi un lien avec la transmission de la psychanalyse dans l'exposé de Myriam Zeger. Simplement, je demanderai à Myriam Zeger si elle peut, première question, nous donner la référence du texte, plus exactement, même la citation exacte, qui me paraît un petit peu étonnante, dans laquelle Lacan dirait que, pour lui, les premières émissions vocales du bébé sont dites au hasard. J'aimerais bien entendre tout de même le texte, puisque s'il s'agit de transmission. Et autre question, la question des souvenirs prénataux. Est-ce que vous pensez que ces souvenirs se situent du côté de souvenirs réels? Ou alors, est-ce que vous les articulez plutôt à la reconstruction que peut en faire un sujet adulte dans le cours d'une analyse?
Bon. Alors, j'essaie de vous répondre brièvement. Pour ce qui concerne la position de Lacan, je me réfère aux travaux de Marie-Christine Lasnik, hein, à son séminaire et à ce qu'elle a publié là-dessus. Où, après avoir étudié tous les textes de Lacan et en particulier ceux du Congrès de Rome, elle en est arrivée à cette conclusion. C'est quand elle se réfère au linguiste de l'époque, hein, qui avait une influence extrêmement importante sur lui et qui, eux, disaient qu'effectivement, c'était des productions hasardeuses. Quant aux souvenirs prénataux, écoutez, comme je l'ai dit dans ma conclusion, mais c'est sûr qu'il faudrait travailler beaucoup plus largement dessus, hein, je pense que le fœtus, on le sait maintenant, mémorise, que cette mémorisation se fait d'une façon sensorielle, avec et dans une chronologie vivante, comme l'a tellement décrit Françoise Zolto, la temporalité est très importante. Donc, au cours de la grossesse, il mémorise un certain nombre de choses. Parfois, il ressent un truc, il accuse réception. Et puis après, que ce soit dans le postpartum précoce ou plus tard, voire même dans l'analyse d'un adulte, il y aura toujours là, sous la forme d'un symptôme, une question. Et cette question, ça sera « qu'est-ce que j'ai mémorisé ? C'est quoi ce truc-là » Et c'est vrai que l'analyse, c'est ce qui permet de dire à un bébé « eh ben oui, quand ça faisait 6 mois que tu étais dans le ventre de ta mère, elle a perdu son père. Et là, tu as senti qu'elle te lâchait, et tu as senti que c'était plus pareil, et qu'il y avait du stress et des choses désagréables. Et c'est pas à cause de toi, c'était parce que ton grand-père est mort à ce moment-là et qu'elle s'est sentie elle-même lâchée. » Et je crois que la possibilité d'entendre cette question et de pouvoir la lier à la temporalité qui peut s'inscrire parfois dans le parcours fœtal, mais parfois sur des générations en amont, c'est ça la magie du travail de la parole dans l'analyse. Hein.
Rapidement, vous parlez d'un lien, effectivement, entre ces souvenirs prénataux et ce que en dit l'analyste. Je me permettrai de vous renvoyer la question que je me pose, à savoir, n'est-ce pas aussi une lecture, et non forcément un lien, mais une lecture, une interprétation qu'en fait l'analyste, qui peut être fausse, mais qui peut être avoir un effet tout à fait juste, bien sûr, sur l'enfant, l'enfant étant pris à ce moment-là dans le langage de l'analyste, et peu importe que l'analyste ait dit une chose juste, plus exactement, non pas juste, mais réel, ce qui est important, c'est que la chose soit juste, justement.
L'analyste vite, il dit des choses. Moi, j'ai remarqué avec les enfants de tous les âges, surtout quand ils sont un peu plus grands, quand on leur dit des bêtises, ils s'en foutent complètement. Ils sont extraordinaires parce que c'est comme si on crachait par terre. Par contre, quand on dit un truc qui n'est pas une bêtise, alors là, soit ils accusent réception tout de suite, soit ils font comme si c'était rien passé et ils vont le reprendre à un autre moment. Les enfants font vraiment la distinction. Nous, en analystes, on propose, hein, on propose des trucs et puis parfois on se trompe, parfois on se trompe pas, mais on essaye. Et puis après, c'est eux qui font le tri, hein, c'est comme les adultes.
On va finir avec deux questions. Caroline Aliachev prendra la dernière question, mais il y a une personne debout derrière. Allez-y, madame. Question-réponse rapide, s'il vous plaît.
Oui, très rapide. Voilà, je viens du Maroc, je suis néonatologue et psychanalyste. Avant d'être psychanalyste, j'étais néonatologue. Et je voulais dire combien j'étais ravie de l'intervention de Madame Stéger et du lien qu'il y a entre ce qu'elle a dit et ce qu'a dit tout à l'heure Yannick François. En ce sens où ce lieu de la périnatalité, lorsque de la psychanalyse est présente, on le voit. On voit que vous avez parlé, monsieur Yannick François, de la psychanalyse de l'enfant. Je pense, comme vous l'avez dit, madame Stéger, qu'à ce moment-là, il y a une transparence psychique chez les parturientes ou dans le postpartum, qu'il y a quelque chose qui se passe qui peut effectivement faire propédétique, comme vous l'avez dit, de quelque chose de la psychanalyse dans l'institution. Et que, comme vous l'avez dit, le corps médical peut y être tout à fait sensible. Et que, par ailleurs, peut-être que quelque chose peut alors être perçu de l'altérité radicale du savoir de l'inconscient par rapport au savoir scientifique, sans que cela n'entraîne l'impossibilité, comme on a pu l'entendre, que le savoir scientifique et les avancées de la science, en particulier dans les compétences du nouveau-né, viennent contredire un savoir qui est d'une altérité radicale, mais qui est tout à fait nécessaire pour que les besoins s'allie au désir. Voilà ce que je voulais dire. Et je pense que c'est un lieu où ceci peut être confirmé.
Merci d'avoir souligné qu'il n'y a pas de contradiction, il y a au contraire une convergence, et les citations à la science dure à la fin, qui sont tout à fait exactes, montrent à quel point nous allons vers une convergence des impacts. Il y a une question au Caroline, mais tu prendras la dernière peut-être, tu diras le mot de la fin. Il y avait une personne qui, depuis tout à l'heure, agite la main, qui voulait dire quelque chose. Allez-y, madame. Brièvement, s'il vous plaît.
Oui, Nicole Laval, psychanalyste à Blois. Voilà, je voulais reprendre un petit peu, après tout ce qui a été dit autour, comme ça, de ce travail en maternité. Bon, on a parlé du blues des mères. Avez-vous rencontré des pères déstabilisés par ce genre de blues-là? Et notamment aussi des pères qui étaient, eux, dans le blues et parfois dans la fuite. Enfin, c'est ce qu'on entend parfois, d'ailleurs, dans nos cabinets, quand on écoute des pères, notamment. Est-ce qu'ils fréquentaient ces lieux-là? Est-ce que vous les receviez?
Alors, quant à la maternité, j'ai la chance de les voir. Parfois, ils prennent rendez-vous eux-mêmes. Le blues, ça ne concerne pas que les mères. Le blues, ça concerne tous les membres de la famille. Hein. Les enfants aînés qui régressent, les grands-parents qui font des bêtises ou qui disent des choses agressives. Le blues, ça se manifeste chez tout le monde. Il faut faire de la place aux nouveaux venus. C'est ça, le blues. Les contenus inconscients vont faire que ça peut grincer parfois chez certains. Et chez les pères, curieusement, ils le manifestent peut-être plus avec leur corps. Ils n'ont pas porté l'enfant dans leur corps pendant ces 9 mois-là. Et après la naissance, c'est là qu'on va aller voir appliquer avec la cheville foulée, le bras cassé ou une angine. C'est souvent comme ça qu'ils accusent le coup pour la naissance et qu'ils célèbrent la chose. Mais c'est vrai que le blues, c'est pas strictement réservé aux mères. Mais il se trouve que moi, en maternité, c'est elle que j'ai sous la main le plus facilement.
Caroline, dernière question, dernier commentaire avant la pause.
Dépression précoce. Dernier commentaire. Je voudrais pas faire rabat-joie, mais je vais peut-être diminuer un petit peu votre enthousiasme. Vous pouvez lire là ce qu'il y a là. Le langage de vérité est salvateur, mais terrible. Voilà, le langage de vérité, c'est terrible. Et il ne faut pas l'oublier. Et monsieur a posé une question tout à l'heure en disant, mais est-ce que vous vous trompez ? Oui, nous nous trompons. Oui, nous nous trompons. Et la précaution que nous devons prendre et qui est absolument essentielle quand on parle à un enfant et qui plus est à un nourrisson, et Myriam le fait, mais elle n'a peut-être pas assez insisté là-dessus, c'est que l'on propose quelque chose. Sinon, effectivement, on a l'impression de dire des choses merveilleuses et des paroles de vérité, et on ne dit rien du tout que l'enfant puisse entendre. Et quand on travaille depuis des années, on se rend compte que ces enfants pour lesquels nous avons eu effectivement une parole salvatrice, au cours des années qui vont se dérouler, parfois nous les revoyons, et nous ne sommes pas toujours très fiers de ce qui s'est passé après. Et donc, oui, il faut continuer, il faut mener ce travail, il faut être prudent et surtout, il faut effectivement beaucoup d'humilité parce que nous n'avons pas ces grands succès extraordinaires de paroles immédiates tout le temps. Donc voilà ce que je voulais dire en conclusion.
Merci à tous pour cette merveilleuse matinée et nous reprenons les débats à 14h.